Vous êtes sur RTL.
Le point complet sur l'info de la mi-journée avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. J'espère que vous avez bien célébré Noël. Noël et les repas qui vont avec. Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce dimanche midi? Compliqué, hein, après les excès de ces derniers jours. Il est peut-être temps de lever le pied. Comment bien remettre son organisme d'aplomb? Je poserai la question tout à l'heure à une médecin nutritionniste. Laurence Plumet sera l'invitée de RTL Midi. Mais l'actualité, c'est d'abord le Covid qui assombrit cette période de fête. Le cap des 100 000 contaminations par jour a été dépassé. Nous serons dans l'une des villes les plus touchées. Toulon, dans le Var, un habitant sur 100 est positif. Demain, le gouvernement se réunit en conseil de défense. Quelles mesures face à cette déferlante Omicron? Une cinquantaine de soignants demandent un report de la rentrée scolaire. L'un d'eux, le professeur Hanan, sera avec nous dans un instant. Dans ce journal aussi, l'affluence sur les sites de vente entre particuliers. On se débarrasse déjà des cadeaux dont on ne veut pas. La directrice du site Rakuten nous dira combien d'annonces ont déjà été postées. Nous irons aussi à Toulouse, où la grève des éboueurs tombe au pire moment après les repas de fête, et en Afrique du Sud, après la disparition de l'une des icônes de la lutte contre l'apartheid, l'archevêque Desmond Tutu, décédé à 90 ans. Les sports, report en cascade des matchs de rugby du top 14. Le choc Toulouse-Stade français n'aura pas lieu ce soir. Trop de cas de Covid dans le camp parisien. Enfin, un nouvel arrivant sur le podium des personnalités préférées des Français, l'astronaute Thomas Pesquet, numéro 2, derrière l'indéboulonnable Jean-Jacques Goldman. La météo, Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Encore de la pluie mais de la douceur au programme cet après-midi.
Exactement, et les pluies sont en train de se décaler vers l'est actuellement. Il y en a quelques-unes sur l'Île-de-France. Les Hauts-de-France, on va les retrouver dans l'après-midi du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord de la région Rhône-Alpes, où la neige d'ailleurs tombera des 1500 mètres. D'autres pluies seront déjà de retour vers les Pays de la Loire. Et puis partout ailleurs, au milieu de tout ça, quelques nuages, quelques éclaircies et surtout un risque d'averses encore assez fort. Fortes averses d'ailleurs en Corse toute la journée. Et puis la seule exception entre l'Aquitaine et l'Occitanie, ainsi qu'en Provence et vers la Côte d'Azur, là vous aurez du soleil, mais parfois voilé. Les températures, donc vous l'avez dit, toujours la douceur, avec certes seulement 6 degrés à Strasbourg, 7 à Lille, mais 11 à Paris et Lyon, 13 à Brest et Marseille, 14 à Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Biarritz et un incroyable 18 degrés pour Perpignan.
Ouais, y a de quoi profiter dans le sud-ouest. Anthony Kazmarek, merci. L'histoire retiendra donc que ce cap symbolique a été atteint le jour de Noël. 100 000 contaminations au Covid en 24 heures, c'est du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. 104 000 précisément. Ce chiffre a doublé en l'espace de 3 semaines. Et cela va continuer. L'infectiologue Benjamin Davido prédisait ce matin sur RTL que le chiffre de 200 000 serait rapidement atteint, avec en plus 40% de malades qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas de symptômes. On va voir dans un instant avec notre invité quelles mesures le gouvernement peut décider demain lors du Conseil de défense sanitaire. Mais d'abord allons à Toulon, dans le Var. C'est l'une des métropoles les plus touchées aujourd'hui, avec un taux d'incidence proche de 1000. Yoram Melloul, vous êtes sur place pour RTL. Taux d'incidence de 1000, ça veut dire qu'une personne sur 100 est positive et ça se bouscule pour aller se faire tester.
Oui, Cédric a les yeux rougis par la fatigue. Il patiente depuis une demi-heure devant la seule pharmacie de garde de la ville.
J'ai ressenti un peu des symptômes, donc je vais essayer de me faire tester pour voir si j'ai pas le Covid. Je vais voir si je peux passer surtout, parce qu'il y a beaucoup de monde devant nous. J'ai pas rendez-vous donc... Ça va être compliqué.
Et il y a une bonne trentaine de personnes dans la queue, dont beaucoup de cas contacts, comme Marie-Laure et Armand.
Ma tante.
Que vous avez vu pour les fêtes?
On l'a vu juste avant les fêtes. Donc les fêtes ont été annulées. Elle a fait ses tests PCR. Et donc là, elle a eu son résultat ce matin. Donc je viens voir pour un test antigénique. On a eu beaucoup d'amis qui se sont révélés Covid positifs. Ouais.
Ces derniers temps?
Oui, cette semaine. Je pense qu'il y a eu beaucoup de laxisme, effectivement, jusqu'à présent. Puisqu'on s'est tous un petit peu relâchés, hein, on baissait les masques. Plus de distanciation, rien du tout. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a eu un gros relâchement.
Pour eux, il va falloir patienter encore un moment. La pharmacie ne reprend les tests qu'à 14h.
Yoram Melloul à Toulon pour RTL. Et j'accueille le premier invité de RTL Midi, le professeur Djilali Hanan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On sait que la région parisienne est aussi très touchée par cette vague Omicron. Est-ce que cela se ressent déjà dans vos services à l'hôpital?
Oui, ça se ressent dans nos services depuis quelques jours. Ça fait déjà plusieurs semaines que la tension était montée, mais depuis quelques jours, cela devient très, très compliqué. C'est en partie lié, bien sûr, à la vague Omicron, mais pas que. Et donc, ces jours de fête sont très compliqués à l'hôpital.
Ouais, on sait qu'il y a toujours un décalage entre le nombre de contaminations détectées et l'impact sur l'hôpital. À quel moment on mesurera exactement si Omicron entraîne un réel afflux de malades graves?
Alors, Omicron va entraîner un réel afflux de malades graves, même si maintenant trois études ont montré que par rapport au variant Delta, le variant Omicron donne moins de risques de provoquer une forme grave. Mais comme il se propage beaucoup plus, comme il contamine beaucoup plus de personnes, même si proportionnellement il donne moins de risques, à la fin, numériquement, on aura beaucoup plus de patients qu'avec le variant Delta, réanimation.
C'est vrai que le nombre de cas explose aujourd'hui, on l'a dit, 100 000 cas par jour, mais en même temps, on teste énormément, record de tests juste avant le réveillon. Plus on teste, plus on trouve, on pourrait se dire qu'il y a une certaine logique aussi.
Non, du tout. L'augmentation de l'incidence et du nombre de cas n'est pas liée au fait qu'on a augmenté le nombre de tests, hein, parce qu'on voit bien que le taux de positivité des tests augmente lui aussi. Donc c'est véritablement une circulation réelle du virus qui s'accélère et qui va continuer de s'amplifier dans les prochains jours, avec un risque important au moment de la Saint-Sylvestre et du réveillon du 31, et puis ensuite un deuxième moment qui risque de catalyser l'épidémie, qui sera la rentrée scolaire.
La rentrée scolaire qui est prévue le 3 janvier, c'est-à-dire deux jours après le nouvel an. Professeur Annan, vous signez ce matin une tribune dans le journal du dimanche aux côtés d'une cinquantaine de soignants, des hospitaliers, mais des médecins généralistes également, et vous alertez sur la circulation du virus justement chez les enfants. Vous demandez à ce que la rentrée scolaire soit repoussée. Pour vous, c'est inévitable ?
Écoutez, pour nous, c'est en effet inévitable ou en tout état de cause. C'est l'un des principaux leviers face à la vague Omicron qui n'a pas encore été activée. Il est clair que la circulation du virus est très intense dans la classe d'âge 5-11 ans. On le voit dans les données de Santé publique France, on le voit dans les études qui sont conduites en France. Donc cette information est un fait. Il va y avoir un effet catalyseur de la rentrée des classes si celle-ci est maintenue au 3 janvier, et ça pourrait nous propulser, comme l'a proposé Benjamin Davidot, à presque 200 000 cas quotidiens début janvier, ce qui risque, comme l'a dit le Conseil scientifique, de déstructurer notre société. Parce que 200 000 contaminations par jour, si en moyenne on a 3 cas contacts par contaminé, ça fait 600 000 personnes par jour qui vont se mettre en isolement. Donc vous voyez que très vite, les entreprises vont avoir du mal à tourner, parce qu'une partie de leurs salariés seront isolés à domicile, et le risque, il est à cette déstructuration de la société si on ne prend pas des mesures importantes et décaler la rentrée des classes avec la vaccination de la tranche d'âge 5-11 ans. Et oui. Donc essayer d'harmoniser finalement la vaccination avec la rentrée des classes, faire une rentrée des classes progressive, avec un renforcement de la vaccination, tout ça pour casser la circulation du virus dans cette tranche d'âge.
Mais à la fois, professeur, les enfants ont besoin d'aller à l'école, c'est évidemment un choix extrêmement politique de repousser ou pas la rentrée. Ça a un impact aussi sur leur vie scolaire, on le sait aussi, sur la santé mentale, sur les familles. C'est extrêmement important. Est-ce que c'est aux enfants, qui pourtant ne font pas de forme grave, finalement, à payer les pots cassés finalement de cette reprise de l'épidémie?
Alors, d'abord, la France peut s'enorgueillir d'avoir effectivement été le pays qui probablement a le plus protégé la scolarisation de ses enfants. Mais à un moment donné, malheureusement, la situation est telle qu'on ne pourra pas reporter cette mesure. Et attention, les enfants peuvent faire des formes sévères. Il y a environ actuellement une quarantaine d'enfants qui sont hospitalisés en réanimation en France, donc c'est pas rien. Il y a pas, et ça du fait de pneumonie liée à la Covid-19. Et puis on sait que les enfants peuvent développer ce fameux syndrome de multisystémique inflammatoire, qui est une forme grave en réponse à une infection par la Covid-19, sans compter des risques au long cours pour des enfants, y compris qui ont été asymptomatiques. Donc, vous voyez, on ne peut pas conclure simplement que les enfants sont simplement contaminés et ne tombent pas malades. Ça serait une grossière erreur.
Ça veut dire que vous appelez les parents aujourd'hui sur RTL, les parents d'enfants de 5 à 11 ans, à aller faire vacciner leurs enfants ?
Je crois que effectivement, c'est maintenant autour de nos enfants de se faire vacciner, à la fois pour les protéger eux-mêmes, et j'insiste là-dessus, pour les protéger eux-mêmes de faire une forme sévère et de se retrouver à l'hôpital, et puis ensuite pour permettre de mieux contrôler à l'échelle de la société la vague Omicron.
Merci à vous, merci professeur Djilali Annan d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le chef de service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches et je renvoie à votre tribune donc publiée sur le site du journal de dimanche. Merci à vous, bonne fin d'année.
Merci.
À vous.
Au revoir.
Il est midi 40 sur RTL. Plusieurs communes et départements ont déjà pris de nouvelles restrictions. C'est le retour du masque obligatoire en extérieur, par exemple en Savoie, dans toutes les stations de ski où de nombreux vacanciers sont arrivés. Masque obligatoire et interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique à partir de 16h. Dans les bars, il faudra aussi consommer assis. Les pharmaciens, eux, on le disait, font face à une ruée spectaculaire sur les tests. De nombreuses officines ouvrent le dimanche, à la fois pour dépister et pour vacciner. Elles vont bientôt recevoir des renforts, annonce Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.
On a mis en place quelque chose qui va être nouveau au mois de janvier, c'est que l'on va pouvoir, pour les pharmacies qui vont ouvrir le dimanche, elles vont pouvoir se faire aider par les infirmiers, par les médecins, qu'ils soient actifs ou retraités, par les étudiants, pour apporter des bras supplémentaires autour de la pharmacie pour pouvoir vacciner et dépister comme un centre de vaccination, mais à petite échelle dans des pharmacies. Et ça peut être très intéressant dans des villages où le médecin, l'infirmier, le pharmacien, avec le maire du village, eh bien, coordonne la possibilité d'avoir des vaccins à proximité pour ceux qui veulent se faire vacciner, ce soit un parcours beaucoup plus facile et je pense que ça va être une aide précieuse au mois de janvier, au moment où il va y avoir une grosse accélération de la vaccination et ça c'est une très bonne nouvelle.
Le président de l'Union des syndicats des pharmaciens, Gilles Bonnefond, joint pour RTL par Aurélia Valarié. Le Covid qui continue aussi de perturber le transport aérien, on en est maintenant à 6300 vols annulés dans le monde en ce week-end de Noël en raison de cas positifs parmi les équipages des compagnies aériennes. Midi 42, vous restez avec nous sur RTL, une très courte pause et dans quelques secondes. Noël, c'est déjà le moment pour certains de revendre les cadeaux. A tout de suite.
RTL Midi.
RTL Midi.
Sébastien Krebs.
Il est midi 43 sur RTL et on en vient aux fêtes de Noël. Chez vous à la maison, c'est peut-être encore aujourd'hui le moment de profiter, d'essayer avec vos enfants les cadeaux reçus hier au pied du sapin ou le moment déjà peut-être de s'en débarrasser, les revendre. Ça n'est plus tabou. C'est même un record qu'ont enregistré hier certains sites de revente en ligne entre particuliers. Bonjour Hélène Slamiche.
Bonjour et joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes la directrice des ventes entre particuliers du site Rakuten. On entendait ce matin sur RTL le patron de votre concurrent eBay qui nous disait qu'il attendait plus de 300 000 annonces de revente de cadeaux rien que sur ce week-end. Chiffre en augmentation de 50%. C'est une grosse journée pour vous aussi, vous le constatez déjà ?
Oui, tout à fait. Juste dans la journée d'hier, on a constaté une croissance du nombre d'annonces mises en vente par rapport à l'année dernière de plus de 15%. On a comptabilisé environ 1,8 million d'annonces qui ont été déposées dans la journée du 25. Donc c'est un chiffre qui ne cesse de croître et qui est extrêmement important.
1 800 000 annonces postées rien que sur la journée d'hier. Et ça continue aujourd'hui ?
En effet, ça continue aujourd'hui et ça va certainement continuer pendant toutes les vacances de Noël. En raison de la crise sanitaire et des personnes qui ont été testées positives juste avant Noël, on sait que tout le monde n'a pas encore passé Noël avec sa famille ou avec ses amis. Et que donc, les gens vont peut-être encore s'offrir des cadeaux pendant toutes les vacances, voire en janvier, et donc potentiellement remettre en vente après. Mmh. Habituellement, on suit la période de la revente des cadeaux jusqu'à début janvier, et là, on s'attend à la voir s'étendre un petit peu jusqu'à mi-janvier.
Quels sont les produits qui se revendent le plus ? Quel type de cadeaux ?
On a un petit peu de toutes les catégories de produits. On voit passer beaucoup de produits culturels, donc des jeux vidéo, des DVD, des CD, des livres, mais aussi des produits high-tech, souvent des téléphones portables d'ancienne génération qui sont revendus parce qu'on a reçu la nouvelle génération. Et à côté de ça, on a aussi du petit électroménager et bien sûr des jouets.
On revend les jouets. Bah tiens, justement, je voudrais vous faire écouter ce témoignage que nous avons diffusé ce matin sur RTL. C'est notre reporter Valentin Boisset qui a rencontré Anne. une mère de famille qui assume revendre certains jouets reçus par ses enfants. Écoutez-la devant la montagne de cadeaux qui sont arrivés au pied du sapin.
Beaucoup, beaucoup trop de cadeaux.
Alors ça, c'est par exemple des vêtements qu'elles ont reçus de divers...
Voilà, ça c'est par la famille hier. C'est compliqué, donc voilà, je vais revendre. J'en fais pas non plus un business, mais c'est vraiment juste, en fait, j'aime pas gâcher. Et donc, quand je sais qu'il y a des jouets qu'ils vont pas utiliser, plutôt que de faire des piles de jouets, parce qu'ils ont une salle de jeu, vous pouvez voir, c'est l'enfer. Donc, plutôt que de faire des piles de jouets, je préfère revendre à des gens qui utiliseront de leur côté. C'est souvent délicat de dire « Ah bah, j'aime pas, est-ce qu'on peut les changer ?» Ça peut être vexant. Ça me permet de racheter, du coup, d'autres jouets.
Eh oui, ça peut être vexant, on ne le dit pas trop, mais on le fait, Hélène Slamiche. Et c'est aussi le type de site que vous dirigez, Rakuten, qui a démocratisé ce type d'attitude, de se dire « Bon bah, pourquoi pas revendre les cadeaux ?» C'est plus tabou aujourd'hui.
Ah non, c'est plus du tout tabou. Ça fait plus de 17 ans que chez Rakuten, on suit justement la revente des cadeaux. Et on a vu via un baromètre réalisé avec Ipsos fin novembre que finalement, plus de la moitié des Français a déjà revendu ou envisage de revendre ses cadeaux. Donc en fait, c'est devenu un geste ordinaire pour la majorité des Français. Et bien sûr, il y aura toujours des personnes qui sont vexées. On a vu dans cette étude que 30% des gens qui découvriraient qu'on a revendu leurs cadeaux se diraient vexés. Mais derrière, oui, on a beaucoup de gens qui seraient compréhensifs, un peu étonnés ou amusés. Donc finalement, ce n'est vraiment plus du tout tabou.
Ouais. Que ce soit pour les cadeaux d'adultes ou pour les cadeaux d'enfants. Ça peut être plus surprenant de revendre les cadeaux de ses enfants.
Oui et non, parce que les enfants reçoivent beaucoup de cadeaux à Noël. Souvent vont recevoir des doublons, parce que c'est toute la famille qui envoie des cadeaux qui ne se coordonnent pas nécessairement. Et comme disait le témoin dans l'interview, c'est dommage d'entasser des choses qui ne sont pas utilisées. Donc ça a beaucoup de sens en fait de revendre des vêtements d'enfants qui sont en trop ou des jouets d'enfants qui ne seront pas utilisés à cette période.
Oui, il y a cette attitude aussi, cette préoccupation finalement écologique aussi, ça sert à quelqu'un d'autre. On est prêt aussi à vendre, on est prêt aussi à acheter de la seconde main.
Alors oui, il y a tout à fait la préoccupation écologique, en effet, de ne pas stocker chez soi des objets qui sont devenus inutiles. C'est aussi pour ça que revendre ses cadeaux est de moins en moins tabou, parce qu'il y a un acte éco-citoyen derrière. C'est un acte qui est complètement positif.
On a tous déjà été déçus par un cadeau de Noël, sauf que maintenant, donc, on ne le laisse plus dans le tiroir. 6,5 millions de Français prévoient de revendre certains de leurs cadeaux. Ça, c'est une étude Kantar qui nous donne ce chiffre aujourd'hui. 3 millions d'annonces attendues d'ici au Nouvel An. Donc, comme vous le disiez, ça va continuer. Merci beaucoup, Hélène Slamiche, d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes la directrice des ventes entre particuliers de ce site, donc, qui s'appelle Rakuten. Merci beaucoup. Bonne fin d'année à vous.
Merci beaucoup et bonne année.
RTL Midi.
Midi 48, vous êtes en train de passer à table en ce dimanche. Tiens, qu'est-ce qu'on mange après le réveillon vendredi soir, le déjeuner de Noël? Il est peut-être temps de faire une pause en attendant de remettre ça au Nouvel An. Mais comment bien se remettre d'aplomb? On s'est dit qu'on avait besoin d'une spécialiste aujourd'hui. Bonjour Laurence Plumet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL ce midi. Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez fondé l'école de nutrition et de napsothérapie. Napsothérapie, c'est l'analyse du comportement lié à l'alimentation. Bon, en termes de comportement ces derniers jours, je ne sais pas si nous avons été très sages. Le cocktail gras, plat bien riche, alcool, vin et champagne, il est détonnant. Non, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Oui, ça on peut dire qu'il y a eu quelques organes là qui ont souffert. D'abord le tube digestif, parce qu'il a vu arriver des quantités d'aliments auxquels il n'était pas habitué. Et donc ça a donné ces digestions qui sont longues, laborieuses, avec cette sensation d'inconfort et de ballonnement. Il faut savoir qu'un estomac, normalement, se vidange en 3-4 heures. Et là, il lui a fallu le double de temps, parce qu'il a vu arriver beaucoup plus d'aliments. Bon, ensuite, vous avez parlé de l'alcool. C'est vrai que cet alcool, il est détoxifié par le foie. Donc ça a été beaucoup de travail pour lui, pour les gens qui n'ont pas été très raisonnables. Et puis, il produit nécessairement de l'acétaldéhyde. qui est un dérivé toxique du métabolisme de l'alcool et qui donne la fameuse gueule de bois le lendemain ou les maux de tête. Et puis, le fait de manger gras, ça a été d'autant plus de gras qui est arrivé au foie. Et donc, ça a été un travail supplémentaire pour lui pour le dégrader et le transformer. Donc ça, c'est certain que pendant ces fêtes, le foie a beaucoup travaillé, le tube digestif aussi, les reins aussi. Et c'est la raison pour laquelle les gens souvent n'ont pas dormi suffisamment, ont plutôt été sédentaires parce qu'il fallait préparer tous ces repas. Et donc, les gens se réveillent fatigués, pas en forme. Et pourtant, vous l'avez justement dit, à la fin de la semaine, il va y avoir cette belle fête qui est ce réveillon. Ouais. Et il va falloir remettre le couvert.
Voilà, donc on met notre organisme, on profite quand même, on se régale. On va quand même commencer par ça. Mais on met notre organisme un peu à rude épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, demain, après-demain? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour détoxifier un petit peu tout ça?
Ben moi, je suggère déjà de fortement diminuer tout ce que nous avons consommé en quantité trop importante, c'est-à-dire le gras et l'alcool. Autrement dit, pendant une semaine, mettons notre organisme au repos et laissons-lui toutes les chances de bien se détoxifier. Pour cela, on évitera de manger gras à table. Donc, on arrête les fritures, les sauces, le fromage, oui, parce qu'il y a souvent un gros plateau de fromage qu'il faut terminer, mais on se fixe une ou deux parts de fromage par jour, grand maximum. Le chocolat, allez, 2-3 carrés de chocolat, mais pas plus aussi, parce que je rappelle que le chocolat c'est bon, mais c'est quand même 40% de matière grasse.
Mais là on a les boîtes qui sont arrivées à Noël.
Donc en plat principal, oui, mais bien sûr. On évitera aussi les plats en sauce, les fritures, et surtout ce qui va nous sauver, ce vont être les légumes. Les légumes, il faut les remettre à l'honneur, et je conseille vivement qu'à midi et le soir, au lieu de prévoir systématiquement des féculents et des plats en sauce, on se remette aux légumes cuits, à la petite salade verte en accompagnement, et qu'au lieu de s'être habitué aux desserts sucrés, on remplace systématiquement les desserts sucrés par un fruit, ce qui fait que à midi, par exemple, après avoir pris un bon petit déjeuner, à midi ou 13h, je propose donc de la viande, du poisson ou des œufs grillés ou vapeur, accompagnés de légumes cuits, vapeur, c'est formidable, avec un petit peu de crème fraîche allégée, et puis utiliser les épices, éviter de trop saler. Ensuite, au dessert, un petit peu de pain, un petit peu de fromage et un fruit. L'après-midi, pourquoi pas un jus de fruits. Et puis le soir, on est en hiver, c'est la saison des soupes, des veloutés. Donc, je recommande la soupe. Ce sont de nouveau des légumes. C'est pas gras, c'est pas calorique. C'est bon, ça cale bien. Un ou deux bols de soupe. On peut prendre une petite omelette, salade verte, par exemple. Et on ne termine pas par du fromage, mais un yaourt, par exemple, qui est bourré de probiotiques. Excellent pour le microbiote, parce que le microbiote, il a beaucoup souffert aussi pendant ces périodes. Il déteste le gras et le sucre. Par contre, il adore les fibres. Et c'est pour ça que, et les probiotiques, et c'est pour ça que notre microbiote, donc notre confort digestif, sera assuré si nous mangeons à chaque repas légumes, fruits et yaourts.
Et ben voilà. On
évidemment,
a le programme.
À table, on remplace la.
Ah oui, pas d'alcool. Et évidemment, pas d'alcool.
Voilà, pas d'alcool. On boit de l'eau à table, et puis nos petits bouillons et nos soupes le soir, c'est excellent. C'est pas une histoire de bonne femme uniquement. Les hommes peuvent aussi aimer la soupe, voilà. Les enfants aussi. Plus on les habitue à les savourer, plus ils aimeront à en manger régulièrement.
Merci beaucoup. Merci.
Chose très importante aussi.
Très vite, Laurence Plumet.
Oui.
Allez-y.
Pardon.
Il nous reste 30 secondes.
Et puis chose très importante aussi. L'activité physique et le sommeil. Donc je recommande que ce soit avant, pendant ou après les fêtes, une heure de marche tous les jours, une heure de marche active et surtout bien dormir. Parce que le cerveau, c'est lui qui dirige tout. Donc il nous faut 7 à 8 heures de sommeil, se coucher avant minuit pour avoir nos 7 à 8 heures de sommeil. Voilà, plus de légumes, fruits au dessert, bien dormir, bien bouger. Pour moi, ce sont les secrets d'une vitalité retrouvée.
Voilà, c'est très clair, on a le programme. Merci beaucoup Laurence Plumet, donc tout le monde à la soupe. Et à l'eau, en attendant de profiter du 31, évidemment. Merci beaucoup Laurence Plumet, je renvoie à votre ouvrage, Le Grand Livre de l'Alimentation, c'est aux éditions Erol. Bonne fête à vous. Midi 54, nous allons à Toulouse à présent, où ça n'est pas un paysage très féerique qui s'est installé dans la ville rose pour Noël. Les poubelles débordent dans les rues, les éboueurs sont en grève et les collectes n'ont plus lieu dans certains quartiers. Ça ne tombe pas vraiment au meilleur moment après les gros repas de ces derniers jours. Benjamin Pelsi est à Toulouse pour RTL.
Alors si l'hypercentre a été vidé de ses ordures, les rues nettoyées, dès que l'on passe les boulevards, les sacs poubelles s'accumulent et les repas de Noël accentuent le phénomène.
Les huîtres, les déchets de, je sais pas, de poissons et tout ça, ça sent mauvais. C'est dégoûtant, c'est honteux. Les sacs éventrés, les rats qui commencent à arriver, les chats qui vont la nuit, les chats errants qui ouvrent tous ces étalés partout.
Vous avez fait comment avec vos déchets ?
Moi, je les mets dans un sac que je mets sur mon balcon pour l'instant.
En ce qui concerne les paquets cadeaux, la poubelle recyclage, donc là, les bacs ont été vidés.
Ça a été ramassé, ça, le 24 au matin, ils sont passés. Alors que ce n'est pas le jour habituel, mais ils sont passés. On espère qu'ils passeront pour le reste.
La mairie, elle vous a dit de mettre les poubelles dans la rue ?
De les laisser dans la rue, parce qu'ils risquaient de passer, mais on ne sait pas trop quand. Voilà, les poubelles s'amoncellent.
Les éboueurs protestent contre une loi qui rentrera en vigueur le 1er janvier, les obligeant à passer de 25 à 35 heures. La mairie a dû faire appel à une société de ramassage privée pour dégager les trottoirs.
Benjamin Pelsi à Toulouse pour RTL. C'est lui qui avait donné à l'Afrique du Sud son surnom de nation arc-en-ciel. L'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et artisan de la réconciliation du pays après l'apartheid, est mort ce matin à l'âge de 90 ans. On retrouve Valérie Hirsch à Johannesburg.
Chef de la puissante église anglicane d'Afrique du Sud, Desmond Tutu était devenu dans les années 80 l'un des grands leaders du mouvement de masse anti-apartheid, ce qui lui a valu d'obtenir le prix Nobel de la paix en 1984. Après la fin de l'apartheid, il s'est fait le champion de la réconciliation raciale. Par la suite, il a été la première personnalité noire à dénoncer les turpitudes du parti au pouvoir, le Congrès national africain. Mais il n'oubliait jamais de célébrer le miracle de la transition pacifique dans son pays, comme lors de ce discours en 2006.
Vous vous rappelez à la veille de nos premières élections démocratiques en 1994, des bombes ont explosé à l'aéroport et des gens étaient tués dans des trains. Et on se disait, aïe, on court vers l'abîme. Et regardez, on a beaucoup de problèmes, mais notre transition extraordinaire vers la démocratie suscite l'admiration du monde entier.
Très affaibli par le grand âge et un cancer de la prostate, Tutu ne prenait plus la parole depuis quelques années.
Valérie Hirsch à Johannesburg, et on avait envie de vous faire entendre Miles Davis, qui en 1986 a dédié l'un de ses albums à l'archevêque sud-africain, album intitulé Tutu. On va revenir en France avec un classement toujours très attendu en fin d'année, celui établi par l'IFOP, le top 50 des personnalités préférées des Français. Il a été publié ce matin dans le journal du dimanche. En tête, les numéros 1 n'ont pas changé chez les dames Sophie Marceau, devant Marion Cotillard et Florence Foresti. Et chez les hommes, c'est toujours Jean-Jacques Goldman, mais avec un tout nouveau dauphin qui bondit de 9 places, Thomas Pesquet, l'homme de l'espace ultra populaire chez les Français.
C'est un homme prodigieux. Il a amené de la joie quand il fait des photos de la Terre, qui peut nous envoyer des clichés et prendre des photos et parler en direct de ce qu'il y a là-haut. Très peu d'hommes, en fait.
Il a vulgarisé le domaine scientifique. Il suscite des envies et des vocations chez les très jeunes. Il est très aimé de l'aîné de mes neveux, qui est passionné d'aérospatial. Et il reste un homme accessible et du coup sympathique.
Il va dans l'espace, il est revenu il n'y a pas longtemps.
Tu l'as suivi ?
Un peu. Je l'ai vu sur des affiches, tout ça. Oui, je l'aime bien, je trouve ça un quelqu'un de courageux.
Propos recueillis dans les rues de Paris par Philippine de Clermont-Tonnerre pour RTL. Les sports, et c'est un boxing day bien perturbé par le Covid qui démarre cette journée du top 14 organisée au moment de Noël. Il y avait 7 rencontres prévues, on en est à 4 reportées. La dernière, ce matin même, le match qui devait opposer Toulouse au Stade français est reporté. 9 cas positifs dans les rangs parisiens. On suivra quand même ce soir le déplacement de Castres à Perpignan. Coup d'envoi à 18h, c'est l'heure à laquelle on se retrouvera pour RTL Soir. Je vous souhaite un très bon dimanche, à suivre les infos de 13h et l'heure du crime sur RTL.
Critère, moi je l'apprécie à l'apéritif, nature bien frais et en couleur. Quelques verrines saumon avocat et de jolies flûtes qui révèlent l'éclat du Critère rosé.
Moi je préfère Critère brut en cocktail. Sirop de fraise, un zeste d'agrumes et une feuille de menthe pour souligner la légèreté des bulles.
Et Critère demi-sec pour accompagner les desserts.
Ah là, on met tout le monde d'accord.
Critère. Nature, en cocktail ou au dessert, invitez les bulles Critère à votre table.
Critère rosé, demi-sec ou brut, à chacun son style. Critère.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.